Bonjour, vous êtes sur D4B 90.4 à Mel, 101.4 à Niort. Vous écoutez L'Oiseau Lire avec
Marie,
Dani,
Marie-Hélène.
Une émission pour vous faire partager notre amour des livres, nos coups de cœur. Sophie Chauveau, depuis une quinzaine d'années, explore la vie des grands artistes peintres. Après Lippi, Botticelli et Vinci, son dernier roman biographique s'intéresse à Picasso. Le roman commence par un tremblement de terre. Picasso, le regard du Minotaure de Sophie Chauveau. Le jour de Noël est le jour le plus férié de toute la chrétienté. En cette Espagne terriblement catholique de la fin du XIXe siècle et en Andalousie, il n'y a pas plus sacré. Ces jours-là sont scrupuleusement chômés, on y traîne entre soi, les femmes au foyer chiffonnent en pépiant, les hommes bavardent entre eux. Ce soir-là, dans l'arrière-boutique d'un pharmacien, se tient place de la Merced, celle à laquelle participe Don José. Vers 21h, il voit, avec effarement, trembler, puis chuter des étagères, pots, fioles et bocaux de verre, répandant liquide et pilules au sol. Preuve qu'un tremblement de terre s'annonce, qui ne fait encore que balbutier, mais en bon malagène, Don José ne peut s'y tromper. Bientôt tout bouge, oscille, s'ébranle, jusqu'aux vitres de la porte-fenêtre qui se mettent à brasiller. Cet homme de 46 ans recouvre aussitôt l'agilité de ses 20 ans pour chercher sa jeune femme dans l'appartement au-dessus. Doña Maria est très enceinte, presque à terme. À toute vitesse, il l'enveloppe dans un grand châle paysan, tout en jetant à ses belles-mères et sœurs cet impératif « Suivez-nous !» Quant à lui, il se drape dans une grande cape noire et y roule le petit Pablo, qui vient d'avoir 3 ans. On n'en voit plus que le bout du nez. Aussi, l'enfant est-il aux premières loges pour entendre le cœur de son père battre fort, très fort, s'essouffler, ressentir l'angoisse, l'urgence. Il les sent s'élancer dans la cité en pleine convulsion à toutes jambes, à toutes volées, s'enfuir au travers de rues qui se fracassent sous leurs yeux, sous leurs pas. Ils enjambent, évitent, contournent un chaos inexprimable. La nuit est noire, plus qu'aucune autre, tandis que se dressent de grandes flammes, surgissant d'on ne sait où, on ne sait pourquoi. Des cris déchirent la nuit, se mêlant au tohu-bohu d'objets non identifiables, qui débagoulent en tous sens. Le fracas de ces choses projetées au sol, les hurlements de peur des fuyards, comme eux, comme de tous les habitants de la ville qui cherchent à éviter les éboulements. L'enfant, qui ne peut rien voir sous la cape de son père, ressent les soubresauts et autres chaos du chemin, les obstacles que ce dernier enjambe et fait traverser à sa mère. Sans voir, on ressent mieux. La nuit la plus sacrée de l'année, Malaga subit son plus violent séisme. Toute la province est affectée par ce séisme qu'on surnomme vite le grand tremblement de terre de l'Andalousie. 55 morts en centre-ville, plus de 900 dans la périphérie. Des villages entiers escamotés ou dévastés. 12 000 maisons ruinées, sans compter l'afflux de près de 3 000 blessés à l'hôpital, qui, comme la cathédrale, est très abîmé. L'instinct de survie de Don José, qui connaît sa ville par cœur, le pousse à chercher refuge chez son ami peintre, le peintre Antonio de Grin. Il le sait à Rome, bien sûr, mais ne doute pas que son épouse leur ouvrira sa maison. L'asile y sera plus sûr. Construire à même le rocher, elle a survécu sans dommage au précédent tremblement de terre et elle est assez vaste pour accueillir toute sa belle famille, dont Maria ne saurait se séparer à l'heure d'accoucher. Doña Inés, l'ancêtre, est aussi petite que ses filles, ce qui ne l'empêche pas de faire le double en largeur de sa fille enceinte. De ses petites jambes fatiguées, elle cavale derrière ses deux filles. Véritable scène d'apocalypse. Au milieu d'un monde en plein chaos, un père drapé de noir, son fils sous un bras, l'autre protégeant sa femme au ventre protubérant, l'aide à franchir les gravois, évitant crevasses et débuts d'incendie. Couple digne de la fuite en Égypte, poursuivi par le reste de sa maisonnée. Don José domine le tableau de sa haute stature. Grand, maigre, blond vénitien et même clair de peau, physiquement il n'a rien d'un andalou, alors que son âme déborde de mélancolie locale. C'est évidemment au milieu de ce drame qui semble ne jamais vouloir finir que commence le travail. Les contractions prennent Maria, tandis que la terre tremble toujours. À peine franchit le seuil de la maison de grain, sitôt que la jeune femme se sent à l'abri, la douleur s'empare d'elle. Telles les répliques du séisme, ces contractions vont durer plusieurs jours. À croire qu'elles s'intensifient de concert ou que les secousses engendrent les contractions. Toutes les femmes, sœurs, mères, servantes, aidées de leur hôtesse, s'emploient sans relâche aux tâches millénaires de l'enfantement. Elles chauffent de l'eau, humidifient de grands linges blancs, se succèdent au chevet de Maria, se rendent utiles et inutiles tour à tour, pendant que la parturiente crie à Anne, souffle et souffre. À son chevet, un monde fou, une agitation aussi désordonnée que les ébranlements de la terre. Et ce petit bonhomme de 3 ans, qui ne comprend rien à cette double excitation. Comme on s'occupe peu de lui, Pablo se trouve au poste d'observation rapproché. Il ne rate rien de ces secousses qui ébranlent sa mère. Quand soudain, le 28 décembre, entre 2 nouvelles répliques, surgit une petite fille. Au milieu du brouhaha, à peine l'entend-on pousser son premier cri. Tout de suite, on la nomme Lola, diminutif de Dolores, la douleur. Pendant le tremblement de terre, l'enfant Pablo subit un autre séisme. La violence d'assister à l'accouchement de sa mère sur cette terre instable, de voir de ses yeux d'enfant l'éclosion, touffe de cheveux noirs, peau luisante, vaguement sanguinolente, de sa petite sœur, dans ce mystérieux amoncellement de linge souillé.
Venise, ah Venise, les gondoles, les canaux, les palais, la place Saint-Marc, le Rialto, ça y est, on y est. Elle aussi, elle y est. Elle est venue pour oublier un chagrin d'amour. Seule Venise, de Claudie Gallet. Venise, c'est un labyrinthe maudit. Je renonce à demander mon chemin. Je suis les pancartes indiquant le Rialto. Quand il n'y a plus de pancartes, j'avance à l'instinct. Campo San Bartolomeo, plus loin l'église Santa Maria dei Miracoli. Le vent se lève, brusquement, une rafale suivie d'une autre. Le linge se met à battre aux fenêtres. Les draps, les tissus de couleur. Dans les venelles, les passants se hâtent, des ombres emmitouflées, hommes, femmes, impossible à dire. Les pas, le bruit des talons sur le sol. Le cri étouffé d'un enfant. D'un coup, les rues se vident. C'est le vent, la bora, la violente. Un volet claque quelque part au-dessus de moi. Un autre, et puis une porte. Les pas s'éloignent. Il est 4 heures et il fait déjà nuit. Campo Bruno Crovato. Un chat débouche d'une ruelle, un chat jaune, presque roux. Il traverse le campo désert et il va miauler devant une porte. La porte s'entr'ouvre et le chat entre. Je m'approche de la fenêtre. Une vieille grille en fer rouillé, une lampe allumée, des livres derrière, sur des étagères, empilés. C'est une boutique. Un pantin rouge pend, accroché par ses ficelles au battant intérieur de la fenêtre. Derrière la fenêtre, il y a un bureau. Sur le bureau, des livres, des papiers, des cartons. Maintenant, il y a le chat. Et derrière le bureau, il y a vous. C'est comme ça que je vous vois la première fois, en homme assis, en train de lire, alors que dehors, la bora souffle et menace de tout arracher. La lumière de la lampe éclaire vos mains, les livres sur la table. Elle éclaire tout le haut de votre corps penché. C'est comme ça que je vous vois ce jour-là. Vous devez vous sentir observé parce qu'à un moment, vous levez la tête. Il fait nuit. Vous ne pouvez pas me voir et pourtant vous tendez la main. Vous fermez le rideau. Le pantin se trouve coincé entre le rideau et la fenêtre. Je ne vous vois plus. Simplement votre ombre dessinée. Derrière, la lumière continue de briller, à peine si elle traverse l'épaisseur du tissu. La calle delle Cappuccine, une ruelle tout près de la pension, une passe étroite qui s'enfonce entre deux hauts murs et permet de rejoindre les quais de Fondamenta Nuove. Ligne 42, le canal de Canareggio, le pont des Trois Arches, avec sur la gauche les quartiers sombres du ghetto. C'est par hasard que je retrouve votre boutique, sans la chercher, sans même y penser. À un moment, je lève les yeux et la vitrine est là. La fenêtre, le pantin. Des livres dehors sur des tréteaux, dans des caisses. Une affiche est scotchée sur la porte, écrite à l'encre noire. « Non datemi del latte perché mi fa male. Lulio, il gatto rosso. » Dessous, la photo d'un chat. Je pousse la porte. Le bois a gonflé, il force sur le plancher. À l'intérieur, c'est plein de livres, de renfoncements obscurs et de cartons en tas. C'est plein d'étagères, de vitrines, avec des affiches contre les murs, des photos punaisées. Une lumière jaune tombe du plafond. Elle éclaire tout en ombre. « Bonjour, je dis, et je m'avance là-dedans comme on avance dans une grotte. » Les livres sont classés par thème, histoire, littérature, art. Des lettres sont scotchées, par endroits elles se décollent. « Vous avez un plan ?» je demande. « Un plan ? Je ne fais pas ça. » Votre voix, rauque, une voix de fumeur. C'est ce que je me dis la première fois que je l'entends. Je peux trouver ça où ? N'importe où, un kiosque à journaux. Autour du bureau, ça sent la fumée à cause du cendrier, des mégots mal écrasés. Je m'approche. « Vous le vendez ?» je demande en montrant le pantin à la fenêtre. « Vous faites non, avec la tête. » Sur le bureau, des livres encore, en pile chancelante. Des stylos, des papiers, un téléphone. Au milieu de tout ça, un livre grand ouvert. Une double page en couleur. Je tourne autour de la fenêtre et autour du livre. Je regarde de la photo. « La Plaza Mayor de Salamanque, » je dis en mettant le doigt dessus. Vous levez la tête. « Vous connaissez ?» J'y suis allée l'an dernier. Il faut prendre un café sous les arcades au petit matin, voir la place comme ça, sans personne. Vous vous approchez. À votre tour, vous posez la main sur la photo. Parfois, avec un peu de chance, on aperçoit des cigognes solitaires sur le toit de la mairie. C'est alors un moment inoubliable. C'est votre voix qui m'a plu. Cette voix comme arrachée de votre ventre. Et puis après, vos yeux. Vous pouvez le feuilleter, vous dites en me mettant le livre dans les mains. Vous me montrez la chaise, le chat qui dort dessus. Vous pouvez aussi vous asseoir. Vous soulevez le chat et vous le posez sur le bureau. « C'est lui le chat Lulio ?» je demande. « Oui. » Le lait le rend malade ? Le lait rend malade tous les chats, mais les gens ne le savent pas. J'ai chaud. J'aimerais enlever mon manteau, je ne le fais pas. Je pose mon écharpe sur un carton près du bureau. Vous retournez au fond de la pièce, vous ne dites rien. Je tourne les pages. Pour moi, la plaza, c'est Trevor. L'amour avec Trevor dans les draps, 3 jours sans sortir. De Salamanque, je n'ai rien vu, rien tenu, rien retenu. Je ne peux pas vous dire ça. J'ai de la lumière dans les yeux, une furieuse envie d'éternuer. J'attends quelques minutes encore et je referme le livre. Je me lève, je vous dis au revoir ou merci ou les deux à la fois. Vous ne répondez pas.
Laurence apprend que l'homme qui l'a élevé, aimé, chéri, n'est pas son père biologique. Et c'est une quête qui va commencer pour Laurence. Elle va enquêter, interroger, elle veut savoir, comprendre. Qui est son père biologique ? Et pourquoi tant de silence et de non-dit ? La part du feu de Hélène Gestern. J'ai appris la nouvelle de mon adoption il y a un peu plus de 2 ans, presque par hasard. Mon père venait de se couper avec un couteau de cuisine, une profonde entaille à la main. J'ai pensé en attrapant un torchon, puis en calant des épaisseurs de coton sous une bande velpeau pour tenter d'endiguer l'hémorragie, que la vieillesse de mes parents était tout, sauf simple. Puis j'ai accompagné mon père, stoïque, aux urgences de l'hôpital. Là-bas, nous avons attendu près d'une heure, qui m'a paru un siècle, avant d'être prise en charge par une jeune interne. Pendant tout ce temps, Jacques n'a pas desserré les lèvres. C'est un homme qui parle peu et se plaint encore moins. Pourtant, je voyais le sang qui sourdait du bandage serré, rampé en mauvaises fleurs rouges sur le blanc du linge. Quand, d'un seul coup, la ruche médicale a essaimé autour de lui et l'a emmené dans une salle d'examen. J'ai suivi le mouvement. Pendant que l'interne qui avait assis Jacques sur un lit défaisait rapidement le pansement imbibé de sang et préparait le matériel de suture, une infirmière a commencé la liturgie des interrogatoires hospitaliers. Identité, âge, numéro de sécurité sociale, antécédents, allergies, groupe sanguin. À toutes ces questions, mon père a répondu d'une voix monocorde, sauf à la dernière. À son énoncé, j'ai remarqué que son visage, déjà très pâle, avait changé de couleur, comme s'il virait au gris. Un éclat de panique a traversé son regard et il est resté muet. « Vous connaissez votre groupe sanguin, monsieur ?» a répété l'infirmière. Le silence s'est épaissi dans la pièce surchauffée, saturée par l'odeur des antiseptiques. L'infirmière s'est tournée vers moi. « Et vous, vous le savez ?»« Non, je ne le savais pas. Mais mon père était donneur de sang. Il était donc impensable qu'il l'ignore. » Ou alors était-il choqué par son accident au point d'avoir oublié une information aussi essentielle ? Son attitude était étrange. Je lui ai proposé de regarder dans son portefeuille, mais il a secoué la tête en signe de dénégation. Je me rappelle nos trois regards braqués sur lui, sur son silence. Puis, après des secondes qui nous ont paru interminables, il a articulé « À plus ». Après quoi il a basculé en avant, un peu ployé, comme au ralenti. L'interne a suspendu son geste, maintenant son aiguille vers le haut, et lui a glissé une main sous la nuque pour l'aider à s'allonger. L'infirmière lui nouait pour la deuxième fois en moins de 10 minutes le brassard du tensiomètre au-dessus du coude. « Ça va, monsieur Tessèdre ?» Mon père n'a pas répondu et s'est contenté de fermer les yeux. Quand il les a rouverts, la lueur qui les avait affolés avait disparu. Mais l'étrange teinte grise, elle, continuait à poisser sa peau. L'interne a consulté du regard l'infirmière, écouté les chiffres et scruté le visage de mon père. À l'issue de la suture, elle a longuement ausculté et a décrété une nuit d'observation, par prudence. À ma grande surprise, Jacques n'a pas protesté. Toujours allongé, il s'est contenté d'agiter sa main gauche dans ma direction en esquissant le geste de me chasser. « Rentre, ta mère doit s'inquiéter. » Un sentiment désagréable ne m'avait pas quitté depuis que j'étais sortie de l'hôpital. Il voltigeait à la lisière de ma conscience comme une mouche importune. A, B, O, AB. Je n'y connais rien en groupe sanguin ni en rhésus, mais je sais reconnaître le visage d'un homme qui a peur. Quel était mon propre groupe, au fait ? B, me semblait-il, sans certitude. J'aurais dû chercher dans les carnets de santé, faire ensuite une requête sur Internet pour vérifier les compatibilités. J'ai préféré repousser la question et je me suis mise à frotter méthodiquement le carrelage de la cuisine en insistant sur les joints dans lesquels le sang était incrusté. Et quand il n'y a plus eu... Plus rien eu à ranger ni à nettoyer, je suis retournée à l'hôpital. Mon père était moins pâle, mais son regard restait chargé d'une inquiétude inhabituelle. Il m'a remerciée pour les affaires de toilette et le pyjama que je lui apportais. Il s'est enquis de ma mère, puis il m'a demandé de m'asseoir. « J'ai à te parler, Laurence. » Quelque chose à l'intérieur de moi s'est crispé, recroquevillé de toutes ses forces. Parce que, au fond, je savais. Je savais depuis tout à l'heure, et sans doute depuis longtemps encore, ce que j'allais entendre et que j'avais préféré ignorer, tant il était facile de laisser couler le temps comme l'eau, de fermer les yeux et de croire que l'ordre des choses demeurait immuable. Je savais, et pourtant j'aurais bien voulu avoir du coton dans les oreilles, rester dans le silence ouaté et rassurant qui jusque-là nous avait recouverts, comme la neige enveloppe les ramures en hiver de sa gangue fraîche. Encore une minute, une heure ou une année. Pas déjà, je t'en prie, ai-je supplié mon père en une prière muette. Mais il avait dit à plus tout à l'heure, et prononcé cette lettre avait ouvert ou brisé un barrage intime en lui. Je le sentais déterminé à liquider un très vieux mensonge et à se défaire en même temps d'un fardeau. Alors il a poursuivi en articulant bien, comme l'agrégé de grammaire qu'il est. Je regrette que tu l'apprennes de cette façon. Je ne suis pas ton père biologique, je t'ai reconnu à la naissance, mais je ne t'ai pas conçu.
Thank you.
Vous venez d'entendre des extraits de Picasso, Le regard du Minotaure de Sophie Chauveau lu par Dany, Seule Venise de Claudie Gallet lu par Marie-Hélène, La part du feu d'Hélène Gestern lu par Marie. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre blog loiseaulire.canalblog.com. À bientôt.